Je voudrais savoir, on sait par Alexandre Duchesne et Monica Heller que des fois, les salariés minoritaires, si on peut dire, qui possèdent des langues autres que celles du pays d'accueil, parfois sont sollicités par l'employeur pour les aider dans la communication avec soit des clients ou d'autres salariés. Je voudrais savoir si vous avez des témoignages disant que ces salariés migrants, par exemple, se sont sentis exploités à cause de la langue et que leurs compétences ne sont pas suivies avec un salaire comme pour les travailleurs locaux qui parfois peuvent bénéficier d'une prime de langue.
So this is a question for Sylvie, but all the presenters this morning.
Pour ce qui est des cas vus, en fait, ce qui m'a été rapporté, c'est qu'il y avait de moins en moins de reconnaissance des langues, y compris dans la rémunération. Enfin, Ah oui, c'est bien la question, ouais. Voilà. Donc de moins en moins de reconnaissance. Certains disons que ça avait existé par le passé dans leur entreprise, mais que ça n'existait plus du tout, quoi.
Dans les conventions collectives, ça existait.
Oui, dans les années 70-80, beaucoup de conventions collectives nationales reconnaissaient les compétences en langue étrangère et donnaient un surplus de rémunération, enfin, ça permettait d'augmenter la qualification. Effectivement, cette reconnaissance a progressivement disparu des conventions collectives.
Les autres pays, si vous voulez répondre à la question aussi. Hein. Je passe une autre.
Alors, bon, Franck Grandmaison, donc, je le rappelle, je suis représentant du personnel. Alors, j'interviens pas trop pour une question, en fait, mais plus pour apporter un petit témoignage. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on aborde une problématique qu'on peut rencontrer dans le monde du travail et dans l'entreprise, qui est la situation des personnes migrantes d'origine étrangère. Moi, j'aurais voulu un petit peu souligner que c'était un des aspects. Une des problématiques qu'on pouvait rencontrer dans l'entreprise par rapport aux langues. Alors sur cette problématique bien particulière qui a été assez développée ce matin, j'aimerais ajouter quand même que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que sur certaines études de cas qu'on a vues, et notamment les métiers qui ont été un petit peu présentés, notamment tout ce qui est restauration d'entreprise ou alors ménage, etc., Monsieur l'a rappelé tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je travaille dans un grand groupe, la plupart des grands groupes et la plupart de ces salariés dont on a évoqué la situation ce matin, ce sont des salariés qui sont employés dans des entreprises spécialisées, bien souvent qui sont, ce sont des sociétés prestataires de grands groupes dans lesquels je travaille, et donc qui, par exemple, vis-à-vis de la présence syndicale ou de la possibilité de s'adresser à des représentants du personnel, ne bénéficient pas forcément des mêmes facilités que les autres salariés. Pourquoi ? Parce que déjà, ils sont dans une entreprise où les représentants du personnel qu'ils peuvent avoir ne sont pas forcément sur site, déjà, puisqu'ils sont dans une entreprise sous-traitante, dans une entreprise donneuse d'ordre. Et donc, le représentant du personnel, il faut déjà voir s'il y a déjà des représentants du personnel dans leur entreprise, ce qui n'est pas forcément le cas. Il faut voir ensuite quel est le type de relation qu'ils peuvent avoir avec leurs représentants du personnel s'ils existent, c'est-à-dire que est-ce que les représentants du personnel viennent de temps en temps sur site pour s'enquérir un peu de leur situation. Et puis, il faut voir aussi, est-ce qu'ils ont la possibilité de s'adresser, par exemple, à des représentants du personnel comme moi, qui sont représentants pas chez leur employeur, mais dans l'entreprise qui donneuse d'ordre. Donc, sur les questions de sécurité, de conditions de travail, étant donné qu'ils travaillent sur notre site, je peux tout à fait intervenir pour dire, vis-à-vis de ma direction notamment, pour dire, vous avez vu ces salariés-là qui travaillent pour nous, dans quelles conditions ils travaillent, etc. Là, j'ai des moyens d'intervention. Par contre, sur tout ce qui est, on va dire, relation contractuelle avec l'employeur, le représentant du personnel que je suis a des pouvoirs limités, quasi nuls, dans ces cas-là. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui, par exemple, peux demander une formation linguistique pour tel ou tel salarié du fait qu'il n'est pas employé dans mon entreprise à moi. Donc déjà, c'est déjà une des difficultés. Moi, ce que j'aimerais souligner quand même, c'est que ces entreprises, enfin, sur certains cas qui ont été abordés ce matin, c'est un phénomène qui n'existait pas forcément il y a 25 ans, puisqu'il y a 25 ans, il y avait des personnes du ménage, de la restauration ou de la sécurité qui étaient du personnel de l'entreprise. Aujourd'hui, ce sont du personnel d'entreprise sous-traitante. Donc déjà, il y a eu cette modification-là qui est quand même importante, je pense, par rapport à la fois à la relation qu'ils peuvent avoir avec des représentants du personnel et de se faire aider par les représentants du personnel. Donc ça, c'était un petit peu une première problématique que je voulais aborder. Il y a une deuxième problématique qui n'a pas été abordée, mais j'en parle vite fait, c'est aussi la problématique des salariés illettrés, où là, les organisations syndicales peuvent aussi intervenir. Moi, personnellement, étant donné que je travaille chez AXA, groupe international, la problématique que je traite, enfin, qui nous touche plus, nous, les salariés d'AXA aujourd'hui, c'est la problématique d'une langue véhiculaire, du choix de l'entreprise d'aller vers une langue véhiculaire, une langue globale, qui est l'anglais. Et là, oui, j'interviens sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que ça pose un certain nombre de problèmes chez pas mal de salariés qui n'ont pas forcément la compétence linguistique en anglais. Alors, bien sûr, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que suivant le poste occupé, suivant l'activité de l'entreprise, suivant le contexte dans lequel vous travaillez, c'est-à-dire est-ce que vous travaillez plus dans un contexte international ou plus dans un contexte local, national, bien sûr que les situations vont être tout à fait différentes. Par contre, bien qu'il y ait une diversité de situations, on constate quand même que de plus en plus de grosses entreprises du CAC 40 et des fois aussi ça a des incidences sur la sous-traitance, sur les entreprises qui sous-traitent certaines activités, il y a un choix de plus en plus prégnant qui fait que c'est l'anglais, entre guillemets, la langue. Alors, je ne dirais pas que c'est l'anglais la langue de travail, parce que c'est vrai que dans beaucoup de cas, les salariés entre eux continuent à parler français, etc. Par contre, dans un certain nombre de cas, oui, là, c'est l'anglais qui s'applique sans discussion, je vais dire. Hein. Quand vous dialoguez peut-être avec un interlocuteur étranger, alors il peut être espagnol, il peut être italien. On cherche même pas, l'entreprise ne cherche pas à savoir si vous avez des compétences linguistiques ou s'il y a des compétences linguistiques, par exemple, en espagnol ou en italien dans l'entreprise. Non, le choix, c'est l'anglais, entre guillemets, la langue commune pour communiquer entre tous les salariés de tous les pays. Ça peut être dans les activités qu'ont les salariés entre eux. Et puis là où c'est vraiment prégnant, c'est sur les communications internes à l'entreprise, où on a souvent des communications qui viennent de la direction, qui sont uniquement dans une seule langue, et là, c'est l'anglais. Et ça pose problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de salariés qui ne parlent pas forcément anglais dans l'entreprise. Je vais vous citer un exemple récent. Je travaille chez AXA. On vient de changer de président de directeur général au 1er septembre. Avant, on avait Henri Decastre, qui était français, francophone. Depuis le 1er septembre, on a un président directeur général qui est allemand, qui s'appelle Thomas Beberl. Il est parfaitement francophone, puisque je l'ai déjà interrogé au comité européen. C'est quelqu'un qui parle très bien français, qui parle très bien anglais. Enfin, voilà.